Bonjour Nalasser.
Bonjour Philippe.
Allez, on va même dire que s'il n'est pas à côté de nous, on est entre amis cette semaine, puisque l'invité que vous avez sélectionné, et vous nous présentez bien sûr un de ses écrits, et on le connaît bien puisqu'il est venu à plusieurs reprises. Il avait été même un invité spécial que vous aviez fait venir à Radio Présence.
On l'a fait deux ou trois émissions. Oui, il est venu plusieurs fois. Oui.
Voilà. Il s'appelle bien sûr Jean-Paul Abadie et c'est notre grand confiturier.
Qui est spécialisé, comme vous le rappeler, dans la confiture de framboise, Philippe.
On salue bien sûr et Jean-Paul Abadie s'il nous écoute.
Oui, il je sais qu'il nous écoute.
Voilà. Et on le salue bien et encore mille merci. Mais Jean-Paul Abadie délaisse parfois ses chaudrons pour aller à Bagnères-de-Bigorre et consulter les milliers de photos des fonds Essalex-Alix.
Oui, le fonds Essalé-Alix.
Oui.
Des photos qui sont prises effectivement par Jean Essalé, par son père et par son oncle. Et ces plaques photographiques, l'appareil numérique n'existait pas, sont non seulement magnifiques, mais un précieux témoignage d'un temps peu éloigné, mais où les façons de vivre nous semblent bien différentes déjà.
Oui, oui. Et j'ai d'ailleurs offert à mon père un livre de
Jean-Paul Abadie.
De Jean-Paul Abadie et avec toutes ces illustrations effectivement de Essalé et Alix, donc
oui.
Où il y a des milliers de photos et on revoit nos Pyrénées à travers le temps, quoi. Et là, c'est magnifique.
Oui. Hein.
La famille Essalé, d'ailleurs, a connu quatre générations de photographes et tous, bien sûr, des grands passionnés. Hein.
Et j'ai eu, grâce à Jean-Paul Abadie, le bonheur de rencontrer plusieurs fois Jean Essalé, qui, du haut de ses quelques 85 ans, parle avec passion et humour de son métier. Il a plein d'anecdotes à raconter.
J'imagine que chaque photo doit avoir une histoire et certaines ont dû être difficiles ou à prendre. Voilà, mais on les salue aussi. Peut-être qu'ils nous écoutent aussi, monsieur Essalé.
Oui, je crois.
Et donc, grâce au fonds photographique Essalé-Alix, Jean-Paul Abadie a pu évoquer les sports pratiqués dans les Pyrénées entre 1930 et 1970. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Faut-il encore présenter Jean-Paul Abadie sur les ondes de Radio Présence ? Ses deux ouvrages, Les Hautes-Pyrénées de mes grands-parents et Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents, illustrés par de superbes photographies appartenant au fond Essalé Alix de Bagnères-de-Bigorre, témoigne d'un temps qui n'est plus et qui pourtant est si proche de nous. Dans son dernier livre, consacré aux différents sports qui étaient pratiqués, nous nous intéresserons aujourd'hui au canoë-kayak et au ski de neuf. De nombreux gaves et nests, écrit Jean-Paul Abadie, descendent dans nos vallées de Bigorre. Ces torrents impétueux qui deviennent rivières servirent autrefois par radelage ou à bois perdu à convoyer le bois, le marbre également, pour le château de Versailles et l'opéra Garnier, entre autres. D'entreprenants radeleurs de nos vallées, de nos campagnes, ne sachant guère où pas nager, c'était autrefois risqué, avec peu de formation technique, sur des embarcations périssables dans ces eaux fougueuses. Les voies d'eau restèrent longtemps les seuls moyens de transport rapide. Les routes s'ouvrirent, les voies ferrées s'infiltrèrent jusqu'au cœur de nos vallées de Bigorre et d'autres moyens de communication, comme le chemin de fer, firent s'éteindre ces grandes aventures périlleuses. De plus, pour des besoins hydroélectriques, les grands barrages de montagne, les retenues d'eau sur les lits de ces torrents, mirent un terme aux crues saisonnières soudaines, intempestives et parfois dévastatrices. Les cours d'eau restèrent vierges de toute navigation jusqu'à ce que, venu de ces bords de mer rochelés, un homme imagine dompter ces flots tumultueux. Déjà venu vers 1935, accompagné en aérium à Lus Saint-Sauveur, deux de ses frères jumeaux tuberculeux, Jean Addison en profitait pour battre et arpenter tous les sentiers de montagne, admirant au passage, en les franchissant, les eaux folles et écumantes, aux couleurs tantôt émeraudes, tantôt indigo, tantôt azurées ou d'une transparence profonde. Passé les années de guerre, aimanté par ses souvenirs des Pyrénées, il revient s'installer professionnellement à Tarbes. Là-bas, en Charente-Maritime, en bord de mer, sur des eaux moins agitées, il pratiquait la périssoire. La montagne lui offre un magnifique domaine d'exploration. Mais comment ne pas concevoir, en ces années où se développent les aventures en eau vive, de se lancer sur les gaves, les nests ou l'ours ? Constatant que le canoë canadien en bois n'est pas particulièrement adapté au choc des rochers qui encombrent les lits pyrénéens, il s'équipe d'un canoë entoilé sur membrure de bois et avec son compère Froment, multiplie les explorations de torrents, aussi bien côté français que versant espagnol. Le canoë-kayak est né et n'arrêtera plus de dévaler nos nests et nos gaves. De cette passion qu'il fera partager à tous ses enfants, Jean Addison, le pionnier du canoë-kayak en Haute-Pyrénées, aura l'immense plaisir de voir émerger son petit-fils, Frank Addison. Celui-ci, 40 ans après les débuts exploratoires du grand-père, portera haut les couleurs de la Bigorre, d'abord sur les podiums des championnats de France, puis en biplace avec Wilfried Fogg aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Mais le sport historique traditionnel de la Bigorre est à n'en pas douter les quilles de neuf. Pratiqué depuis des lustres avec ferveur tous les dimanches pour les plus entichés, il était l'apanage des bistrots et auberges de village. Sans doute, faut-il remonter au 15e ou 16e siècle en Gascogne, mais Gargantua y jouait déjà, semble-t-il, à la cour de Seuilly, près de Chinon. Qui nous dira si Gaston Phébus s'y adonnait aussi au château de Mauvezin ? Plus près de nous, les quillets étaient établis et la propriété du tavernier qui mettait à disposition le jeu de quilles et le plantier. Il en retirait quelques avantages substantiels, car à la longue, lancer la boule pour faire choir les quilles donne soif et même faim. Les plantiers étaient ordinairement aménagés en espace extérieur dans un carré d'une dizaine de mètres de côté, ce qui ne nécessitait point d'infrastructures de couverture coûteuses. Tout d'abord, distraction collatérale au bistrot, cette activité n'en est pas moins un sport. Chacun peut s'essayer à chambouler des quilles, mais n'importe qui ne s'improvise pas quillou, joueur de quilles de neuf. En effet, la bola en noyer ne pèse pas moins de 6 kilos. On la projette vers le plomb sur la quille de main, qui doit à son tour faire tomber un maximum de quilles sur le plantier. Chacune des 9 quilles de hêtre, bardées de 250 clous métalliques, mesure 96 cm de hauteur et pèse ses 2,9 kg. Le quillot, joueur de quilles, doit effectuer 12 figures et totaliser évidemment un maximum de quilles tombées. Ce sport de tradition se joue principalement dans le sud des Landes, en Béarn, dans le sud-ouest du Gers et en Bigorre. Les premiers championnats officiels ont eu lieu en août 1944 à Pau. Jean-Paul Abadie évoque dans son ouvrage bien d'autres sports. Et au fil des pages, nous comprenons mieux le passage d'un monde où les pratiques sportives étaient peu ou prou absentes, réservées à une élite, à un monde où le sport est devenu roi. Les photographies du fond et Salé Alix illustrent de façon remarquable ce que fut le sport entre 1930 et 1970 dans les Pyrénées. Les passages retenus sont extraits d'un ouvrage que nous devons à Jean-Paul Abadie, « Le sport dans les Pyrénées de mes grands-parents », ouvrage publié en 2017 par les éditions Cairn.
Et voilà deux sports, le canoë-kayak et les quilles de neuf pratiqués dans les Pyrénées. Mais vous avez lu que Jean Addison pratiquait la périssoire en Charente-Maritime.
Exact. J'ai donc cherché, Philippe, ce qu'était une périssoire. Alors, la périssoire est un canot long qui a près de 4 mètres de long quand il est monoplace et qu'il est destiné à la promenade sur l'eau. La périssoire de course est deux fois plus longue.
Jean-Paul Abadie évoque aussi le radelage qui permettait autrefois de transporter des troncs d'arbres par voie fluviale et on assemble les troncs en radeaux.
Et en faisant des recherches, j'ai découvert également qu'en Vallée d'Aspe, en mémoire de ce transport du bois par flottage, on a organisé une journée du radelage.
Ah ben voilà, c'est original. Cette journée a eu lieu le 1er juillet dernier. Trois radeaux ont descendu le Gave jusqu'au barrage de Bédousse.
Oui, et au XVIIe et au XVIIIe siècle, les sapins de la vallée d'Aspe flottaient jusqu'à Bayonne pour les besoins de la marine royale.
Et les radeleurs munis des trams qui dirigeaient sur le Gave. Bon, aujourd'hui, ce sont des passionnés qui se sont regroupés dans l'association béarnaise des radeleurs du Gave d'Aspe et d'Oloron. Alors, c'est magnifique. Hein,
c'est merveilleux.
Qui rénovent encore les vieilles locomotives à vapeur et qui font comme ça des passionnés. Voilà. Oui. Et qui nous font revivre un peu de notre histoire et de nos racines. Hein.
Et oui, de nos façons de faire et que nous n'avons pas connues ou totalement oubliées.
Voilà, donc s'il y en a qui sont passionnés par cela, eh bien, je pense que vous allez sur Internet et sûrement d'autres dates doivent être inscrites pendant l'été.
Je pense que c'est au début, fin juin, début juillet, je pense.
Voilà, le radelage. Il faut s'en profiter tant que le Gave est encore haut, parce que sinon les troncs, ils ne vont pas aller bien loin. La semaine prochaine, Anne, c'est avec Lucien Briette que nous partirons dans les montagnes. À la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.